C'est toujours un défi de prêcher. Il y a des prédications pour lesquelles c'est encore plus un défi, et celle de ce matin en fait partie. Imaginez si régulièrement, dans le mois, dans l'année, nous devions passer, nous incliner devant la statue de la personne qui dirige avec une main de fer notre pays, pour nous incliner devant cette personne, devant cette statue, et pas seulement nous incliner, mais aussi pour dire quelque chose comme « longue vie à notre Seigneur », quelque chose de ce genre. Tout cela au vu de tous, tout cela pour notre prospérité, tout cela pour ne pas être inquiété. Difficile à imaginer. Eh bien, figurez-vous que c'est ce que vivaient les chrétiens de l'Église dans la ville de Smyrne vers la fin du 1er siècle de notre ère. La ville de Smyrne était fière de son temple, érigé 65 ans plus tôt par les Romains, en l'honneur justement de l'empereur de Rome à cette époque-là. C'était un certain Tibère qui a régné de 14 à 37 après Jésus-Christ. Et l'Empire romain avait vu dans la ville de Smyrne une alliée fidèle à l'Empire. Et pour s'assurer continuellement des bonnes grâces de Rome, de l'Empire, on exigeait dans cette ville de Smyrne que les habitants passent régulièrement devant le buste de l'empereur et versent de l'encens sur le feu qui brûlait là. Et pas seulement cela, mais ils devaient aussi confesser César et Seigneur. Eh bien, c'est dans ce contexte-là que l'église de Smyrne reçoit le livre de l'Apocalypse, et en particulier cette lettre qui la concerne et que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 2, les versets 8 à 11. Je les lis maintenant, le texte s'affiche. « Et à l'ange de l'église de Smyrne, écrit, voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, qui était mort et qui est revenu à la vie. » Je connais ta persécution et ta pauvreté, pourtant tu es riche. Ainsi que la calomnie de ceux qui disent être juifs et ne le sont pas, mais ils sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une persécution de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne lui causera pas de mal. Smyrne était la seconde des 7 églises dont il est question dans les 3 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse, donc Elle est ici, là c'est le point numéro 2 sur le parcours. On se situe à l'ouest de la Turquie actuelle, dans une province romaine qui s'appelait l'Asie mineure. On est 60 km environ au nord d'Éphèse. Et Smyrne correspond aujourd'hui à la ville de Izmir en Turquie. Quel est donc le message? Comment comprendre ce message du Seigneur pour les chrétiens dans cette ville de Smyrne? Tout d'abord, une remise en contexte. Et cette remise en contexte, j'insiste, je l'ai déjà dit il y a 2 semaines, elle est nécessaire, elle est importante. Je ne trouve pas un seul commentaire, et j'en consulte un certain nombre, qui disent le contraire. J'en cite un, j'en recite un, parce que je l'avais déjà mentionné il y a deux semaines, pour nous rappeler l'importance de la remise en contexte. Il évoque ici le chiffre 7 qui suggère qu'au travers de ces 7 églises, l'auteur de l'Apocalypse viserait l'ensemble des églises et donc des chrétiens de toute époque. Toutefois, ces 7 églises ne sont pas juste des églises symboliques, mais sept communautés de la province d'Asie qui existaient et qui ont été premièrement adressées, à qui ont été premièrement adressées les lettres de Jean. Ces lettres ont donc été de vraies lettres correspondant à de réelles difficultés et répondant à de réelles préoccupations pour les chrétiens de ces villes. Il est donc nécessaire de comprendre la situation des chrétiens de l'époque, leur lutte, leurs défis, leur réalité, pour pouvoir comprendre ce que voulait effectivement dire l'apôtre Jean et ainsi pouvoir en tirer les applications pour nous. Alors, que peut-on dire de la ville de Smyrne et plus particulièrement de l'église qui s'y trouvait? Déjà, on ne sait rien de la fondation de cette église. Contrairement à Éphèse, où là c'est bien documenté dans le livre des Actes des Apôtres, Smyrne, on ne sait pas. Ceci étant, à la lumière de cette lettre, l'église de Smyrne est une église qui souffre. Jésus commence la lettre en disant « Je connais ta persécution et ta pauvreté ». Il y avait deux principales causes à cette persécution. La première, c'était le contexte de l'Empire romain. Et du fait de leur conversion, les chrétiens étaient tenus à l'écart par les païens, les non-chrétiens. On évitait souvent de faire affaire avec eux ou de leur donner du travail. Certains même perdaient leur travail parce qu'ils n'arrivaient plus à commercer. D'autres, c'était plus dur pour eux parce qu'ils étaient de classe sociale pauvre et donc ils avaient du mal à s'en sortir. Et donc, devenir chrétien à Smyrne, vers la fin du premier siècle de notre ère, ça représentait un véritable sacrifice. Les souffrances étaient dues, entre autres, au culte à l'empereur, je le mentionnais tout à l'heure en introduction. Les habitants de la ville versaient régulièrement de l'encens devant le buste de l'empereur et devaient confesser que César est Seigneur. Et tout cela en vue de s'attirer les bonnes grâces de Rome, de l'empereur. Mais comment faire quand on est chrétien? À Smyrne, à la fin du premier siècle. Pouvait-il appeler César leur Seigneur alors qu'ils confessent que Jésus-Christ est Seigneur? Ça aurait été de l'idolâtrie. Les chrétiens allaient donc à l'encontre de la politique de la ville qui faisait cela dans le but de rester la meilleure alliée de Rome et d'obtenir en retour une certaine faveur de Rome. Pour vous donner un exemple, un certain Polycarpe, qui a été un évêque originaire justement de la ville de Smyrne et qui avait connu l'apôtre Jean quand Jean était très âgé et que Polycarpe était très jeune, il a été confronté 60-70 ans après les contextes de cette lettre à choisir entre César et Jésus. Le proconsul qui l'interrogeait lui dit « Aie pitié de tes cheveux blancs, maudis le Christ et tu seras libre ». Et Polycarpe de répondre « Il y a 86 ans que je le sers et il ne m'a jamais fait de tort. Comment pourrais-je le maudire ? Il est mon créateur, mon roi, mon sauveur. » Polycarpe a choisi son camp et il est mort martyr, brûlé vif, vers 155 ou 165. Et Jésus avait prévenu dans cette lettre que des chrétiens de Smyrne seraient jetés en prison. Vraisemblablement, Polycarpe en faisait partie, allait en faire partie. La seconde cause de la persécution des chrétiens de Smyrne vient de quelques-uns parmi les Juifs. J'insiste sur le « quelques-uns parmi les Juifs ». Jésus dit d'eux « Je connais la calomnie de ceux qui disent être Juifs et ne le sont pas, mais ils sont une synagogue de Satan ». Ces Juifs en question pensaient faire partie de la synagogue de Dieu. Ils sont pour eux le peuple de Dieu, mais Jésus dit d'eux qu'ils appartiennent en fait à la synagogue de Satan. C'est une expression très forte pour désigner des Juifs qui s'opposent à l'Église et qui la persécutent. ces juifs-là sont au service de Satan en ce sens qu'ils accomplissent les œuvres de Satan. D'ailleurs, au verset 10, dans la lettre, il est question, c'est le diable, c'est Satan qui va jeter les personnes en prison. Et donc, ces juifs-là contribuaient à ce que des chrétiens aillent en prison. Ils imitent, ils participent aux œuvres de Satan, aux œuvres du diable. En ce sens, ils sont une synagogue de Satan. On a donc d'un côté les habitants de Smyrne qui persécutent les chrétiens dans ce contexte de l'Empire romain avec ce culte à l'empereur, et puis de l'autre des juifs qui voient dans les chrétiens un mouvement dissident et des personnes qui blasphèment à l'égard de leur Dieu et qui ne veulent pas reconnaître que Jésus est le Messie. L'église de Smyrne, donc une église qui souffre, ça transpire de cette lettre. Et ce n'est pas fini, on n'a pas fini d'en parler. Mais en même temps, une chose importante à dire, c'est que les chrétiens de Smyrne sont riches. Le texte dit « Je connais ta persécution et ta pauvreté, et pourtant tu es riche ». Elle n'est pas riche d'œuvres, comme il est dit dans la lettre à Éphèse, dont on a parlé il y a deux semaines, où Jésus dit « Je connais tes œuvres », sous-entendu toutes ces œuvres bonnes et belles que tu fais pour moi, pour le monde, etc., des œuvres qui sont à la gloire de Dieu. Non, ce n'est pas de cela dont il est question ici. Elle n'est pas riche de ces œuvres-là. Ce qui compte, c'est sa fidélité dans l'épreuve. Voilà ce qui est le plus important, voilà ce qui honore le Seigneur. Et en ce sens, l'église de Smyrne est riche. Elle est riche spirituellement. Elle est riche des grâces qui lui viennent du Seigneur et non pas des grâces qui viennent de Rome. Elle est riche d'un trésor qui l'attend, qui attend les chrétiens de Smyrne dans le ciel. La vraie richesse n'est pas dans le porte-monnaie. Elle n'est pas non plus dans notre statut social, ni dans le métier qu'on exerce. Notre vraie richesse, la vraie richesse est dans ce que Jésus a fait pour nous et qui se traduit ensuite en nous par une vie d'adoration, de consécration, d'obéissance. L'église de Smyrne, donc, une église qui souffre durement, mais en même temps une église qui est riche spirituellement parce qu'elle est fidèle au Seigneur Jésus. Et ça, c'est le bilan, dans le verset 9, que Jésus dresse de son église à Smyrne. Et ce bilan conduit à une exhortation. Au verset 10, Jésus dit « Sois fidèle jusqu'à la mort. Tiens bon, malgré la persécution. Tiens bon, sois fidèle. » Tenir bon, premièrement, à l'exemple de Jésus. Jésus-Christ s'adresse en ces termes à l'église de Smyrne. Il dit, verset 8, voici ce que, il parle de lui-même, voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, qui était mort et qui est revenu à la vie. Et tout comme dans les six autres lettres, on l'a déjà vu pour Éphèse il y a deux semaines, et on le verra pour les autres lettres ensuite, dans la suite du chapitre 2 et le chapitre 3, le titre que Jésus se donne en tant qu'auteur dans la lettre n'est jamais le même, mais c'est toujours un titre qui vient pour argumenter, aider à comprendre le développement qu'il fait ensuite dans sa lettre. Ici, Jésus se présente comme celui qui est le premier et le dernier. Et cela, on l'avait vu quand on avait abordé le chapitre 1, c'est un titre qui désigne Dieu dans l'Ancien Testament et qui atteste ici que Jésus lui-même est Dieu. Et en tant que Dieu, Jésus est avant toute chose, il est le premier. Il est aussi le dernier, c'est-à-dire celui qui sera là jusqu'à la fin. Il sera toujours. Il est comme l'éternel, éternellement là. Il est le divin souverain de l'histoire qui est aux commandes de l'histoire, du début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire. Jésus se présente ici également comme celui qui était mort. Autrement dit, Jésus fait rappel ici ce qu'il a fait pour son Église. Et il l'invite à rester fidèle, sois fidèle comme moi j'ai été fidèle, sois fidèle comme moi j'ai donné ma vie pour toi. Sois fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, cela ne signifie pas seulement d'être fidèle jusqu'au jour de notre mort, mais cela implique d'être fidèle même si cela doit nous amener à mourir. Et donc, même si cela doit nous coûter la vie, si notre fidélité doit nous mener à la mort. On peut se souvenir du contexte d'oppression dans la ville de Smyrne, qui voulait justement s'assurer les bonnes grâces de Rome avec ce culte à l'empereur qui était dédié. Mais les chrétiens de Smyrne sont invités ici à manifester une fidélité sans réserve au seul et vrai Seigneur, qu'est Jésus-Christ, même si cela doit lui coûter la mort. Mais ce que Jésus dit là encore, dans la manière de se présenter au verset 8, n'est pas sans rappeler aussi l'espérance de la résurrection. Car Jésus était mort, mais il se présente aussi comme celui qui est revenu à la vie. Fin du verset 8. La mort n'a pas été le dernier mot dans l'histoire. Jésus est vivant. Les chrétiens de Smyrne n'ont donc pas à craindre la mort parce que Jésus a eu le dernier mot sur la mort. Il est sorti victorieux du tombeau. Il en a été question dans ce qu'on a entendu tout à l'heure. Tenir bon donc, premièrement, à l'exemple de Jésus. Deuxièmement, tenir bon par la confiance placée en Jésus. Jésus qui dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir » au début du verset 10. Il invite ici les chrétiens de Smyrne à ne pas craindre ce qui les attend. Et cela est possible non pas en regardant à notre propre capacité à surmonter l'épreuve, mais à regarder à Christ, à fixer notre regard sur lui, lui qui a remporté la victoire sur la mort. Il est passé par là, lui en premier, il sait ce que son Église peut traverser. Et il peut soutenir dans l'épreuve. D'ailleurs, Jésus a dit, « Je connais ta persécution. » Je la connais. Le Seigneur sait toutes choses. Il connaît les souffrances que subissent les chrétiens de l'église de Smyrne. Rien n'échappe à Dieu dans les épreuves que l'on peut traverser. Et non seulement il sait, mais comme dit la suite du verset 10, c'est lui qui met une limite à l'épreuve. Il dit « Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une persécution de 10 jours. » En fait, Jésus donne les contours, les limites de l'épreuve. Il limite quant au nombre de personnes qui seront persécutées, ce ne seront pas tous les chrétiens qui seront jetés en prison, mais le texte parle de quelques-uns. Mais il limite aussi la durée. Il était question ici de 10 jours. Alors certains comprennent les 10 jours de manière littérale, donc ce seront 10 jours de 24 heures. Il me semble qu'une compréhension symbolique ici conduit à penser que la persécution qui est annoncée sera d'une durée brève. Et pour cela, je nous renvoie à ce dont nous avons parlé la semaine passée en étude biblique avec l'importance et la place du symbolisme dans le livre de l'Apocalypse. C'est Dieu qui délimite cela, cette épreuve, cette persécution à venir. Il la délimite, il la détermine dans sa souveraineté. C'est lui qui détermine les choses. Il est le maître, le souverain de l'histoire. Et on peut noter une chose importante. C'est que là où le diable suscite la persécution à l'encontre des chrétiens dans le but de les détruire, dans le but de les éloigner de Dieu, eh bien Dieu utilise cette persécution pour mettre les chrétiens à l'épreuve dans le but de les faire grandir spirituellement. Dieu n'est pas notre bourreau, mais Dieu veut notre croissance spirituelle, notre affermissement, notre consécration, notre obéissance. Tenir bon dans la confiance en Jésus. Troisièmement, tenir bon en vue de la récompense à venir. Et Jésus rappelle en quoi consiste cette récompense à la fin du verset 10. Il dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » La couronne ici, c'est le même mot qui est utilisé pour désigner la couronne que l'on donnait aux vainqueurs dans les jeux qui avaient lieu dans les arènes. Ils avaient leurs arènes aussi là-bas. Il y a quand même une grande différence entre cette couronne-là et la couronne de vie. La couronne des stades, il n'y en avait qu'une pour le vainqueur. Mais la couronne de vie, elle sera donnée à tous ceux et celles qui persévéreront jusqu'à la fin. Et la couronne de vie ici désigne la vie éternelle qui attend ceux et celles qui persévéreront jusqu'à la fin. La lettre se termine par le même avertissement que pour les 6 autres lettres. J'en avais déjà parlé donc pour la lettre à Éphèse il y a 2 semaines, hein, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Une invitation à prendre très au sérieux cet avertissement que Jésus donne ici. Et s'ensuit une promesse au vainqueur, la seconde mort ne lui causera pas de mal. Le vainqueur, c'est celui qui sort victorieux dans le combat contre le mal. Ici, le vainqueur, quand bien même il viendra à mourir de cette mort physique, corporelle, qui nous attend tous, sauf si Jésus venait avant, la seconde mort ne lui causera pas de mal. Et la seconde mort, qu'est-ce que ça désigne? Ça désigne la séparation éternelle avec Dieu, d'avec Dieu. Cette séparation qui est le lot de tous ceux et celles qui refuseront de placer leur confiance en Jésus. C'est l'enfer, la damnation éternelle. Cette seconde mort désigne cela. Et en ce sens, la seconde mort ne nous causera pas de mal si nous persévérons jusqu'à la fin. Cela signifie que le vainqueur vivra éternellement dans la présence de son Seigneur Jésus-Christ. Il ne sera plus jamais séparé de Dieu. Et je signale en passant que le texte original en grec, ici, utilise une formulation avec une négation accentuée. Il s'agit de la manière la plus catégorique de nier quelque chose dans la langue grecque. On pourrait traduire ici « le vainqueur n'aura mais vraiment rien à craindre de la seconde mort ». Rien à craindre. C'est une négation accentuée, comme pour insister sur « vraiment rien à craindre ». Aussi dure soit-elle humainement parlant, et elle l'est pour tant et tant d'entre nous qui avons perdu des proches, la mort physique n'est finalement pas la plus terrible. Car si on a placé sa foi en Dieu, cette mort physique conduit à la vie éternelle qui attend les chrétiens. Jésus dit dans l'un ou l'autre des évangiles, et je cite dans Luc chapitre 12, versets 4 et 5, « Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, vous dis-je, c'est lui que vous devez craindre. » Jésus ici utilise de deux sens du mot craindre. La crainte de la peur. Il ne faut pas craindre ces hommes qui peuvent nous terrasser et qui peuvent nous générer une peur, une crainte. Il y a une invitation ici, au contraire, à craindre Dieu de cette crainte qui signifie un profond respect et qui se traduit par la confiance en Dieu et l'obéissance à Dieu. C'est de cette crainte-là qu'il nous faut être épris. La crainte de Dieu, le respect de Dieu, bien plus que la crainte des hommes et de tous leurs subterfuges pour nous éloigner de Dieu. Alors, quels enseignements pouvons-nous retenir pour nous aujourd'hui? Parce que peut-être on ne se reconnaît pas dans tout ce qui est dit ici, en tout cas dans le contexte que nous vivons en France, la souffrance, la persécution, la prison, le martyr. Je pense qu'il y a d'autres chrétiens sur la surface de la terre pour qui ça a une résonance toute particulière. On en a vu une vidéo tout à l'heure. Ceci étant, rappelons un premier enseignement, c'est que la souffrance fait partie de la vie du chrétien. Et cette souffrance, elle peut se manifester de diverses manières. Dans quelques temps, Pierre abordera, lors de la dernière béatitude, une béatitude qui parle de la souffrance, la persécution. Donc ce sera en Matthieu 5, versets 10 à 12. Ailleurs, Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 18 et 20, « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Ou encore, au chapitre suivant, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde, dit Jésus. » Les apôtres et les premiers chrétiens ont vécu la persécution, le rejet. D'ailleurs, on le voit bien des fois dans le livre des Actes des apôtres, et plusieurs lettres dans le Nouveau Testament évoquent aussi cela. On peut lire la première lettre de Pierre, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, où Paul parle des souffrances du temps présent, qui sont incomparables par rapport à la gloire qui est à venir. Ou encore dans la lettre que Paul a écrite à Timothée. Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. De toute évidence, la souffrance, l'épreuve, la persécution font partie de la vie de disciple de Jésus, en particulier chez celui ou celle qui veut vivre pieusement, comme je l'ai lu deux fois ici dans 2 Timothée 3. Pieusement, c'est-à-dire dans l'attachement, dans la consécration, dans le désir d'accomplir et de suivre les lois de notre Dieu, de lui rester fidèle. C'est la part de ceux qui veulent vivre en suivant le Seigneur et en lui obéissant. Deuxième enseignement, ne tentons pas d'écarter la souffrance par le compromis avec le monde. Des chrétiens de Smyrne auraient pu se dire, après tout, un peu d'encens devant le buste de l'empereur, c'est peut-être pas si grave que ça, non? D'ailleurs, on est en droit de douter que tous les autres de la ville qui le font ont une loyauté sans réserve à l'égard de l'empereur. Pourquoi pas moi, après tout? Et puis, d'ailleurs, ce geste, il est davantage politique que religieux. Je serais pas surpris que ce genre de raisonnement soit venu à l'esprit de tel et tel de nos frères et sœurs dans l'église de Smyrne. Manifestement, si ça leur est venu à l'esprit, ils ne se sont pas laissés vaincre par ces pensées, parce que le Seigneur, dans le bilan qu'il dresse, les félicite d'être fidèles et les invite à rester fidèles. Notre Dieu nous demande d'être vrai. Il nous demande d'être authentique. Le faux-semblant n'a pas sa place dans la vie du disciple de Jésus. Le compromis n'a pas sa place dans la vie du chrétien. Si nous sommes authentiques quand nous chantons, quand nous prions le dimanche matin, et je crois que c'est le cas, nous avons chanté tous ensemble et de tout cœur tout à l'heure, « Nous voulons te rester fidèles hein, et former un même corps. » Alors cette authenticité Elle doit nous suivre dans notre vie de tous les jours, demain, mardi, toute la semaine. J'aime la formulation qu'emploie un commentateur. Je vous l'affiche ici. Les chrétiens de Smyrne avaient refusé d'aménager leur foi pour l'accommoder aux exigences de ce monde. Ils avaient refusé le compromis et ils allaient en payer le prix. Nous avons dans les chrétiens de Smyrne un exemple à suivre. Ne tentons pas d'écarter la souffrance par le compromis avec le monde. Ce peut être des compromis sur le plan doctrinal, en masquant une partie de la vérité, dans le message de l'Évangile par exemple. Ça n'a l'air de rien, mais parfois, nous avons tendance, en annonçant l'Évangile aux personnes qui nous entourent, à leur parler de l'amour de Dieu, à leur dire que Dieu peut nous sauver, Dieu peut nous faire passer l'éternité avec lui, Dieu nous aime, etc. On insiste beaucoup là-dessus et on évince tout ce qui a trait au péché. Parce que le péché, ça fait peur, ça fait réagir les gens négativement. On masque quelque chose de la vérité. Les personnes arrivent dans l'église après, mais est-ce qu'elles sont vraiment chrétiennes? Est-ce qu'elles ont vraiment pris conscience que si Jésus est mort sur la croix, c'est parce qu'elles ont péché? Il me semble qu'il y a un compromis ici qui est fait. Il n'y a qu'à voir la lettre de Paul aux Romains, et je sais que les jeunes du groupe de jeunes, vous étudiez cette lettre en ce moment. L'apôtre Paul, il utilise plusieurs chapitres au début de la lettre pour montrer l'importance que tous les êtres humains sont pécheurs, et c'est seulement après qu'il montre le remède. S'il n'y a pas de mal, il n'y a pas besoin de remède, mais c'est parce qu'il y a le mal, c'est parce qu'il y a le péché qu'il y a besoin que Jésus vienne et donne sa vie sur la croix. Parfois, les compromis concernent les normes de la morale, de l'éthique chrétienne, notre manière de vivre conforme à l'Évangile. Par exemple, l'honnêteté dans les affaires. C'est pas toujours évident d'être chrétien et honnête, consciencieux dans son travail, surtout si notre travail vise une ambition lucrative. Et parfois, le chrétien est confronté à un choix entre l'honnêteté et la malhonnêteté. Parfois même au risque de perdre son emploi. Sur le plan personnel aussi, dans nos déclarations d'impôts. Des questions liées à la sexualité, l'abstinence avant le mariage, la fidélité dans le couple. Ces questions où le monde emprunte des chemins souvent très différents des nôtres, ou en tout cas de ceux qui sont recommandés par le Seigneur dans sa parole. Et le risque avec tous ces compromis, c'est d'arriver à un message de l'Évangile qui est dilué, où on veut offenser moins de monde et finalement espérer s'attirer plus de respectabilité, et parfois aussi attirer plus de monde dans les églises. Parce que l'Église n'a pas bonne presse quand elle prend fidèlement position pour l'Évangile devant la société, qui a souvent donc des valeurs contraires. Et en tant que chrétiens, il nous faut apprendre à marcher à contre-courant du monde, de la société dans laquelle nous vivons. En plus de l'exemple de Jésus lui-même, qui est l'exemple par excellence, en plus de l'exemple des chrétiens de Smyrne, je pense à deux personnes dans l'Ancien Testament qu'il est bon, je pense, de relire le récit pour se réapproprier ce qu'ils ont pu vivre et comment ils sont restés fidèles au Seigneur. Je pense à Joseph dans Genèse chapitre 39 et l'attitude qu'il a adoptée devant les avances de la femme de Potiphar. Et je pense aussi à Daniel et à ses trois amis exilés à Babylone et qui ont souhaité rester fidèles au Seigneur alors qu'ils étaient à Babylone dans un terrain complètement païen, une culture totalement païenne. Relisons ces récits. Parfois, il faut fuir, comme Joseph a fui. Parfois, il faut prendre position avec amour, comme Daniel et ses trois amis l'ont fait. Retenons une chose dans cette lettre que Jésus adresse à Smyrne, c'est que si nous acceptons des compromis, alors nous souffrirons beaucoup moins. Et à l'extrême, si nous nous fondons avec le monde, si nous nous confondons avec les valeurs du monde, nous ne souffrirons, mais alors plus du tout. Et par contre, nous cesserons d'être une lumière, d'être un flambeau dans ce monde. L'église de Smyrne a précisément été félicitée par Jésus parce qu'elle a refusé tout compromis. Mais la conséquence, c'est qu'elle souffre. Je relis ce que Paul a écrit dans Galates, chapitre 1, verset 10. « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Ne tentons pas d'écarter la souffrance par le compromis avec le monde. Et enfin, et pour conclure, tenons bon. Tenons bon. Nous aussi, il nous faut tenir bon, persévérer dans l'obéissance au Seigneur, même si cela doit nous coûter. Alors aujourd'hui encore, ça ne nous coûte pas comme ça coûte à d'autres, dans bien des régions du monde, et comme ça coûtait aux chrétiens de Smyrne. Mais apprenons à être obéissants, d'autant plus quand ça va bien dans un contexte où les choses vont relativement bien. J'insiste sur le « relativement bien », pour que si le jour on doit prendre, être plus radical, on puisse l'être, on puisse le faire, on puisse dire « mais moi je veux suivre Jésus, même s'il m'en coûte ». Et en même temps, Jésus, il souhaite ici nous rassurer parce qu'il connaît les détresses que nous pouvons traverser, la pauvreté, la calomnie de ceux qui nous disent du mal de nous. Mais en même temps, quel réconfort de savoir que le Seigneur sait toutes ces choses. Le Seigneur est celui qui met les limites, on l'a vu tout à l'heure, pose les limites à la persécution que l'Église de Smyrne traversait et allait traverser encore à venir. Le Seigneur sait donc tout cela. Nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons exprimer aussi nos besoins, nos souffrances dans la prière. Il les entend. Nous ne sommes pas seuls. Il nous promet sa présence. Il peut nous apporter la paix comme personne ne peut le faire. Quelles que soient les épreuves que nous pouvons traverser, nous ne tomberons jamais plus bas que dans la main de Dieu. La main de Dieu, cette main bienveillante dont la lettre dit qu'il est le Dieu éternel, le premier et le dernier, au verset 8. Il est le Dieu victorieux sur la mort. Il est le Dieu qui sait toutes choses. Il est le Dieu souverain. Alors, gardons les yeux fixés sur ce Dieu-là. Gardons les yeux fixés sur Jésus et tenons bon. Amen.